Pierre, c'est-à-dire Simon-Pierre, était pêcheur, pêcheur du lac, pêcheur au bord du lac, quand Jésus l'avait appelé. Et sa vie avait radicalement changé. Radicalement changé, et de tout ce à quoi il avait dû renoncer, de tout ce que Pierre avait arrêté depuis que Jésus l'avait appelé à sa suite, c'était probablement la pêche dans le lac qui lui manquait le plus. On dit que c'était son métier, c'est bien plus que son métier, c'était sa passion. Et la première chose qu'il fait, maintenant que le Seigneur est parti, c'est de retourner à la pêche. Ça lui manquait tant. Il en avait tellement envie. Et, de façon très logique, il le propose aux deux autres pêcheurs du bord du lac, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui étaient pêcheurs comme lui. Et tous les trois, il le propose aux autres apôtres qui n'y connaissaient rien. Nathanaël, l'intellectuel, l'homme qui était sous le figuier, l'homme des livres. Thomas, dont la tradition dit qu'il était orfèvre, qui était plutôt l'homme des métaux, à qui ils en avaient tellement parlé tout au long des marches à travers la Terre Sainte. Évidemment qu'ils évoquaient tous ces souvenirs. Et voilà un très curieux équipage que ces sept-là, il y en a deux autres, je ne sais pas qui c'était, mais ces sept-là qui sont un mélange de spécialistes, de pêcheurs professionnels et de novices. Et forcément, les premiers, les spécialistes, sont quand même plus que gênés quand ils passent toute la nuit à ne rien prendre. Ils les avaient peut-être prévenus que c'était un peu aléatoire, mais enfin quand même à ce point-là, rien du tout. D'habitude, c'est pas exactement comme ça. Vous savez, quand vous emmenez, quand c'est votre spécialité que vous emmenez les copains, il y va quand même de votre honneur, de votre réputation. Moyennant quoi, au petit matin, la contrariété est forte. L'ambiance un peu pesante. Une contrariété si forte qu'ils ne peuvent même pas profiter du bonheur d'être là. Imaginez le lac au petit matin, quand le jour se lève, la beauté, le calme, quand on est entre amis, la possibilité de profiter du bonheur d'être là, ensemble. Et surtout pour eux d'être en vie déjà. Ils ne sont pas passés loin de la mort. Pierre surtout et les autres aussi, ils ont failli être arrêtés. Et ils savaient ce que ça leur aurait voulu dire s'ils avaient été capturés. Et ils sont de retour en Galilée. Bien sûr, Jésus leur a fait dire, le Christ ressuscité, allez m'attendre en Galilée. Mais ils sont au pays. Ils sont tranquilles au pays, ils sont chez eux. Et ce n'est pas à Tibériade que les grands prêtres vont venir les chercher. Ils ont forcément dans l'idée de pouvoir enfin profiter de la vie. De se faire un peu plaisir après trois années évidemment intenses, trois années qui ont dû leur paraître toute une vie, mais trois années où on ne s'occupait que de Dieu, que de la religion, que de la loi, que de la foi, où les conditions étaient quand même spartiates, où on ne mangeait pas toujours à sa faim, on dormait peu, et il fallait faire très attention à ce qu'on disait quand Jésus était là. Il fallait penser deux fois avant de parler. Mais ils en ont encore plein les yeux de toutes ces choses extraordinaires que Jésus a faites devant eux. Tous ces miracles, plein le cœur de ce qu'ils ont ressenti, plein les oreilles de ce qu'ils ont entendu, toutes ces paroles. À se demander même s'ils n'ont pas rêvé. Et c'est une explication possible de ce dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Ce chapitre 21, sur lequel tous les spécialistes s'accordent pour dire que c'est une page qui a été ajoutée ultérieurement, qui est un style radicalement différent du reste de l'évangile. Ce récit qu'on pourrait qualifier d'onirique, c'est onéron en grec, ça veut dire le songe, comme dans un rêve. Ce récit un peu surréaliste, cette ambiance avec ses annotations bizarres, Pierre qui s'habille pour plonger, les filets qui se remplissent tout d'un coup, ce feu sur le rivage avec des poissons en train de griller. On dirait presque une image ou presque une parabole de la relation que nous avons, nous, avec les incroyants. Les incroyants, vous le savez très bien, sont persuadés que nous rêvons, que nous sommes dans l'illusion. Et nous, c'est exactement ce que nous pensons d'eux. Que sont eux qui sont à côté de la réalité, à vivre loin de Dieu. Mais s'il y a un sujet sur lequel nous pouvons tous nous accorder, croyants comme incroyants, les uns comme les autres, dont nous pouvons discuter, c'est du bonheur d'être en vie. Et même de savoir comment profiter de cette vie qui nous est donnée, de la chance qu'on a, en particulier quand on est en bonne santé. Et voici que dans ce premier tableau, ce tableau de rêve, où un jour nouveau se lève, comme un jour de résurrection, il y a cette vision d'un homme sur les rivages, un homme seul, sur le rivage désert. Le Seigneur nous attend. C'est le Seigneur. Et comme dans notre vie, la vie bascule à l'image de cette barque qui s'enfonce quand les filets se remplissent. Et on passe à un deuxième temps, une deuxième scène, et on va même dire une deuxième contrariété. La première contrariété, c'est quand ils ont rien pêché. Deuxième contrariété, Jésus leur dit d'apporter de ces poissons qui viennent de pêcher, de venir manger, c'est ce qu'ils font, et ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il y en a déjà qui sont mis sur le feu en train de griller. Ça nous est tous arrivé, vous apportez de quoi faire un bon repas, et il y a déjà, c'est déjà tout prêt, ça sert à rien. C'est quand même assez contrariant. C'est comme ce chiffre de 153, on s'est toujours demandé, depuis toujours on s'est demandé à quoi il correspond. Eh bien, il ne sert à rien. C'est comme Pierre qui s'habille pour se jeter dans l'eau, pour se rendre un petit peu présentable et convenable, eh bien, une fois trempé, ça ne sert à rien. Et on en arrive à la troisième scène, le troisième temps et la troisième contrariété. Quand Jésus demande à Pierre devant tous les autres, « Est-ce que tu m'aimes ?» La question que les hommes détestent. La question que les hommes redoutent et détestent, qui nous met en situation assez pénible, de faiblesse, de dépendance, d'infériorité. Le sujet le plus intime sur lequel on a le plus de mal à se prononcer. Et en plus, Jésus pose la question trois fois, puisqu'il avait dit à Pierre qu'il le renierait trois fois. Pierre avait répondu « Jamais !» « Jamais, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » »« Tu donneras ta vie pour moi ?»« Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu me renies trois fois. » Voyez à quel point cette dernière page de l'Évangile de Saint Jean, c'est un texte d'hyper-réalité. Ce n'est pas un texte surréaliste, c'est un texte hyper-réaliste par ces trois contrariétés. Première contrariété d'une nuit stérile, où le sentiment d'échec finit par empêcher de goûter la beauté de la création, la joie de l'instant présent. Deuxième contrariété du repas, où ils auraient évidemment préféré qu'on mange ce qu'ils avaient pêché, ce qu'ils avaient apporté. C'est exactement comme nous à la messe. On voudrait toujours davantage participer, faire quelque chose, apporter. C'est très difficile simplement de se laisser faire, simplement d'accueillir. Et enfin, qui ne sait à quel point le souvenir de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements passés peut gâcher la joie de la présence de l'être aimé. Les apparitions du Christ ressuscité ont ceci d'étonnant que les yeux des disciples étaient empêchés de le reconnaître. Mais qu'est-ce que nos yeux sont empêchés de reconnaître ? Sinon que la vie est belle quand Dieu est là. La vie est immense avec le Seigneur. Que la création est une merveille, même lorsque les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et surtout, avant tout, que l'amour est l'essentiel de notre vie et que l'amour seul triomphe et triomphera. Seigneur, apprends-nous à profiter avec toi de la vie. Profiter de la vie avec toi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les contrariétés. Seigneur, pour profiter de la vie, ton amour nous suffit.